Les pieds sur terre, Sonia Grønlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Cela fait maintenant 7 mois qu'un mouvement de grève a débuté dans les services d'urgence des hôpitaux publics français. D'abord suivi par les personnels soignants seuls, les médecins hospitaliers ont maintenant rejoint la protestation et c'est presque tout l'hôpital qui est mobilisé à présent. Initié à Paris, le mouvement s'est étendu en région. Mardi, une marche funèbre symbolisant la mort de l'hôpital public s'est dirigée vers Bercy, s'inquiétant notamment du vote imminent à l'Assemblée nationale de crédit pour l'hôpital public sans commune mesure avec les besoins et la gravité de la situation, cite Libération. Des célébrités ont même rejoint le mouvement en adressant début octobre une lettre ouverte au président de la République réclamant un plan d'urgence, c'est le cas de le dire. L'écrivaine Marie Desplechin l'a précédée d'un texte qui explique, entre autres, « Je constate d'année en année que les budgets sont en diminution constante et les hôpitaux transformés en usines à actes. Il n'y a plus de place, plus de temps, plus de lits et plus assez de gens pour prendre soin des accouchés, des mourants, des personnes psychotiques, de ceux qui arrivent avec leurs douleurs. Ce qui est menacé désormais, c'est moi, ce sont mes proches et la société où je vis. Le combat des personnels pour l'hôpital public, c'est le mien. Il porte une idée très haute de cette société qui a choisi de ne pas faire de la vie et de la mort principalement une histoire d'argent. » Selon un sondage pour les Échos, sachez que 84% des Français soutiennent les urgentistes en grève, la moitié estimant d'ailleurs que la crise découle d'un manque de moyens financiers et humains, 8% seulement pensent qu'elle est liée à un problème organisationnel. Aux urgences de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis, où nous sommes tout de suite dans les pieds sur terre, la grève a commencé le 6 juin. Sur une radio privée, le chef de ce service a eu une formule percutante. Il a dit « Les urgences, c'est comme le Concorde, c'est magnifique, tout le monde nous l'envie, mais on va s'écraser dans un champ. » Tout de suite, donc, une nuit dans ces urgences du 93, où tout est plus urgent qu'ailleurs, elle est racontée par Émilie Chaudet.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe, et c'est comme ça que les choses arrivent. Madame,
oui. Il faut me prendre en urgence, je crois que je fais une intoxication alimentaire.
Vous avez votre carte vitale, s'il vous plaît ?
Je sais pas.
Vous êtes déjà venu ici ? Oui, on va vous prendre immédiatement, vous serez la prochaine. J'appelle l'infirmière d'accueil. J'appelle à l'intérieur.
Voilà.
J'appelle tous les services, même les médecins. Ça répond pas. Vous voyez les aléas du travail ? J'appelle une urgence, ça répond pas. Je suis en train de les appeler, madame. Si j'étais infirmier, je vais vous prendre en charge. Désolé. Oui, c'est l'accueil. Docteur, s'il vous plaît, vous pouvez nous envoyer une infirmière d'accueil à l'accueil.
Ok. C'est pour elle qui est à l'accueil.
C'est ça.
Elle est où?
Elle est où, justement? Je m'appelle Mazigno et j'aurai 56 ans d'ici 2 jours. Il faut être apte et solide mentalement. Des fois, des bandes qui finissent leur bagarre ici. Oui, vous avez l'exemple. Le truc, il était là. C'est pour séparer les deux postes. Voilà, ils l'ont cassé. C'est une cloison qui sépare les deux postes, en fait.
Et c'est un patient qui l'a cassé ?
C'est un accompagnant, c'est même pas le patient. Le plus souvent, c'est pour rien, parce qu'à l'accueil, on peut rien faire. Je suis là pour les informer, les accueillir, et être l'intermédiaire entre lui et ce qui se passe à l'intérieur. Mais il se défoule, voilà.
Il y en a pour longtemps, monsieur, c'est que
il y a 2 urgences qui sont arrivées avant vous. Venez, vous patientez là, quand elle va venir vous chercher. 10 heures d'affilée ici. Je ne bouge pas. Depuis 9 heures du soir jusqu'à 7 heures du matin. Voilà, ça fait 10 heures. Il est 1h34, voilà.
Oui,
Marc, s'il te plaît, c'est l'accueil.
Ouais.
Et le monsieur de la sécurité n'est pas là depuis un bon moment. Oui, c'est ouais. Oui, s'il te plaît, il y a des gens qui veulent rentrer en pédiatrie.
Là, c'est un peu particulier cette nuit parce qu'en fait, il y a un match de foot là, donc au stade. Donc en général, pour nous, c'est toujours des nuits un peu particulières, surtout quand il y a la France qui joue. Parce que là, globalement, depuis le début du match, on a une accalmie. Et puis en général, bah, on fait la troisième mi-temps aux urgences parce que ceux qui sont contents, bah, faites ça en buvant un peu. Ceux qui ne sont pas contents, faites ça en buvant aussi. Et puis souvent, ça se termine avec des bagarres. Donc c'est le calme avant la tempête.
Et vous, vous êtes là depuis quand ce soir?
Non, depuis ce matin.
Depuis ce matin, d'accord.
Moi, je suis prévu en 24 heures. C'était un petit peu compliqué parce qu'il y avait pas mal de patients hospitalisés dans le service. Et en plus, bon, il nous manquait un peu de personnel ce matin. Et puis on a eu un gros afflux de malades, donc tout ça mis bout à bout, on commence seulement un peu à refaire surface là maintenant.
Bonsoir.
Oui.
Ça fait 4 heures que je suis ici et oui. C'était au moins une heure là, on m'a dit qu'on préparait mon matériel pour m'enlever ça. On m'a menti là.
Non, ils vous ont pas menti, c'est qu'ils ont été prises par les urgences. D'accord.
Elle, je reviens vers vous, je vois avec les filles et je reviens vers vous.
Donc moi je suis Linda Benous, je suis le cadre de nuit, enfin l'un des cadres de nuit. On gère pas uniquement les urgences. On gère tout l'établissement. Donc on est tout seul pour gérer la nuit. Et au final, on est souvent pris par les urgences. Parce que c'est là où il y a le plus d'activité. On est entre les urgences, les étages. Donc c'est un peu compliqué quand on est tout seul. Samedi, on a souvent pas mal de plaies par arme blanche, plaies par arme à feu. Apparemment, c'était le thème du week-end, là. Donc le week-end d'avant aussi, c'était pareil. Ils se sont tapés au coup de marteau. Il y a deux jeunes qui sont fracturés, là, au niveau du crâne. Il a frôlé la mort. C'est des histoires de gangs, c'est des histoires de cités. Il y en a qui ont gardé des séquelles. Il y en a qui sont hémiplégiques, tétraplégiques. J'ai aussi le monsieur là, ce week-end, avec deux doigts coupés, qui est arrivé coupé au sabre. Je veux dire, tout ça, c'est des règlements de compte. Et c'est vrai qu'il y a des tentatives d'intrusion. Par exemple, on évite qu'il y ait, beaucoup d'accompagnants, à part quand il y a des barrières de la langue. Parce que sinon, ça fait vite hall de gare et vous ne savez pas ce qui se passe. Et parfois, quand vous avez deux bandes rivales, donc vous vous retrouvez ici et ils se tapent entre eux alors que vous avez des patients à côté. Et voilà, nous en 2007 on s'est fait tirer dessus à la Kalachnikov. C'était une garde à vue amenée à l'hôpital par la police. C'était en pleine nuit, oui. Et donc du coup, il avait un portable dans sa chaussette, il a pu appeler des amis à lui. Et ils sont arrivés, cagoulés et armés. Ils ont commencé à tirer un peu surtout. Après, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a évacué des patients qui étaient en lit et tout. Les patients qui ont pu courir, ils sont partis tout seuls. Eux aussi, ceux qui sont venus, il y en a qui sont couchés au sol. Moi, à l'époque, j'étais infirmière. Donc, j'étais dans les box. Donc, j'étais avec un patient. On a pris la fuite. J'ai pris le patient sur son lit. Et je l'ai évacué vers le bâtiment central. Et puis après, je suis revenue à l'arrière. Parce que bon, il y en avait d'autres encore. Et puis on a évacué comme on a pu. Après l'intervention de la BAC, il y a eu la direction qui s'est déplacée. Il y a eu voilà. Donc après ils sont partis. Après on a fermé les urgences pendant 4-5 heures jusqu'au petit matin. Quand tout a été sécurisé, on est revenu. Il n'y a pas eu de blessés, mais il y a eu quand même des coups de feu qui ont été échangés au sein des urgences et tout. Et c'est vrai que heureusement ils n'ont pas touché l'oxygène ou quoi, ou qu'est-ce qu'ils sont répétés. Ça a été dur et puis je vous dis, c'est choquant aussi. J'aurais pu mourir. Et là, je me dis, mais qui serait occupé de mes enfants? Et c'est ça que je leur explique. Des fois, on est tous ici des mères, des pères de famille. On est de nuit parce que, voilà, en général, on a souvent des enfants en bas âge. Le matin, je peux aller déposer mes enfants à l'école. Je peux intervenir si jamais ils sont malades ou si jamais il y a une réunion ou quoi que ce soit. Je peux les récupérer à 16 heures, faire les devoirs, prendre la douche, les faire manger. Et puis après, je peux venir travailler. J'avais 17 ans quand j'ai commencé ce travail, j'étais aide-soignante. Ensuite, j'ai grimpé les échelons progressivement jusqu'à être cadre. Toujours à De La Fontaine, et je ne saurais pas faire autre chose. Je ne sais pas, moi, quand vous regardez les patients, vous regardez par exemple le monsieur du box 4, quand il vous regarde avec ses yeux, qui vous dit s'il vous plaît, et vous êtes là, un sourire et tout ça. Franchement, c'est vrai, au niveau salaire, c'est vrai que ce n'est pas ça. Je gagne 2100 euros, mais quand vous voyez des gens que vous réussissez à sauver, et ben ça, c'est magnifique. Ça, c'est la récompense de notre métier, justement.
Tu as pu l'interroger, non?
Oui, oui.
Et de l'heure, à partir de quelle heure qu'elle a ressenti ça?
Minuit.
T'as pas l'heure, là?
2h07.
2h07.
Il vient du Sénégal.
Oui.
Il vient de sortir de l'aéroport. Il vient pour être soigné en France. Je suppose qu'il a un VIH, un stade sida, avec maladie opportuniste. Vraiment, le monsieur, il est dans un état... d'amaigrissement, asthénique, il ne marche plus, il est en fauteuil roulant.
Donc on l'inscrit, on verra. Donc de toutes les façons, il est en isolement et tout.
Oui, je vais mettre en isolement.
Allez tout droit, à votre droite, gauche, droite.
Ben, je suis agent de sécurité incendie, chef de poste de nuit. C'est l'entrée du, c'est le hall administratif du site, donc, qui est aussi l'entrée des urgences maternité de nuit. Donc c'est un lieu de passage de jour très fréquenté et de nuit fermé, seulement ouvert d'un côté pour pouvoir permettre aux femmes enceintes de venir ou aux véhicules d'urgence d'amener. Voilà. Dans cet endroit, on a des. Normalement, il y a, logiquement, il n'y a personne, mais il y a des femmes enceintes qui viennent régulièrement envoyées par le 115. Donc là, en l'occurrence, il y a deux femmes enceintes et trois femmes africaines. Oui. Ils dorment à même le sol ou sur les bancs. C'est les bancs d'accueil, les bancs d'attente quoi, des gens la journée. Elles ont des couvertures que l'aide sociale vient leur donner ici même dans l'hôpital. Mais elles n'ont rien, elles n'ont plus rien. Donc nous, on a normalement comme consigne, on ne peut pas héberger, on n'a pas de lieu pour héberger ces personnes malheureusement. Mais on ne va pas non plus faire de la non-assistance à personne en danger. Donc du coup, au lieu de les laisser dehors, on les laisse et on les surveille ici. Donc la direction, on les a avisés, on a avisé les cadres, tout le monde est à peu près au courant de la situation. Bon, on fait avec les moyens du bord, donc on essaie de s'organiser vu que c'est comme ça. Donc là, l'hiver arrive, ça va peut-être être plus compliqué. Il y aura beaucoup plus d'enfants et de voir un enfant dans la rue, c'est dans le froid, ça va être dur. Donc on va essayer de trouver une solution comme on peut, mais le lendemain matin, elles doivent partir. Donc nous, on passe régulièrement la nuit en faisant des ronds, on regarde si tout se passe bien, si généralement on se salue, on parle des enfants, de la journée, de leurs problèmes, de leurs démarches administratives. Souvent, il y a des enfants qui sont scolarisés et malheureusement, ils dorment ici le soir. Ils dorment ici, puis ils retournent à l'école le lendemain matin, donc c'est pas vraiment une vie. Quoi.
Bonsoir, mesdames. Ça va ?
Et toi ?
Oui.
Ça y est, vous avez mangé, c'est bon ?
Moi, j'ai mangé un foyer.
Vous aussi ? Bon, tout va bien ?
Oui.
D'accord, vous manquez de rien ?
Le sommeil n'est pas profond parce que, vous voyez, c'est du bois. J'ai mal partout. Vous voyez, j'ai les pieds enflés. Vous voyez, même mon genou est enflé. Dans la journée, je suis obligé de cavaler mes colis partout. Vous voyez, mes mains, à force de porter les sacs, toutes mes paumes de mains sont abîmées. Je suis dépassé. Je suis là depuis presque 3 mois ici à l'hôpital La Fontaine. Mon frère m'a chassé de la maison depuis janvier 2019 que je suis dehors. Et j'appelle 115, je n'ai pas de suite. Je n'arrive pas à comprendre. Ils ont hébergé pas mal de gens, mais moi, je suis toujours là. Le matin, on va à l'amicale du nid pour le petit-déj. Et après, il n'y a plus de suite. Je me cavale à gauche, à droite, dans Saint-Denis. Et après, vers peut-être 16 heures, je reviens ici.
Vous viviez où avec votre frère ?
Au Bourget. Au Bourget. Je suis arrivé ici en septembre 2017, du Bénin, oui.
Je peux savoir comment vous vous appelez, madame ?
Kelani Nestora.
Vous avez quel âge ?
Je suis née en 51. Ça fait 68 ans.
3 heures du matin, quelque chose près.
Madame, je vous écoute. C'est pour l'enfant ? Déjà venu ici ? S'il vous plaît. Ils disent faire des économies. Il y a sûrement la lumière ici. Elle est restée 24 sur 24 allumée. Ça te donne des migraines. Trop de lumière. Oui, c'est l'accueil. Dites-moi, vous avez fini avec Monsieur Diarra les soins ? S'il vous plaît, vous me tenez au courant ? Oui. D'accord, très bien.
Donc, je suis arrivé en France en janvier 2007. Voilà, ça a environ 12 ans. Voilà. Donc, dans mon pays d'origine, j'ai suivi une formation d'infirmier diplômé d'État. Et quand je suis venu, j'ai passé un examen à l'ADAS à l'époque. C'était l'ADAS, la direction départementale de la santé. Et j'ai eu l'autorisation d'exercer en tant qu'aide-soignant dans la France métropolitaine. Ensuite, on m'a reclassé ici suite à un accident de travail, en fait. Mais sinon, ce n'est pas ma formation initiale. Mais surtout, j'aurais aimé qu'on travaille à deux, en fait. Il faut deux personnes ici. Par exemple, pour prendre la pause. Je suis le seul à l'hôpital qui ne prend pas sa pause. Une urgence, au bout de 3 minutes, 4 minutes, ça peut être fatal. S'il n'y a personne, un arrêt ou qui arrive, il n'y a personne à l'accueil. Alors, monsieur, c'est pour me... Cara, c'est ça ? Il est en train de passer un scanner. Radio, ensuite il est passé au scanner. Aucune idée. Je ne peux pas savoir. C'est pas moi qui lui fais passer le scanner. Le scanner, ça prend un peu plus de temps qu'une radio.
D'accord, merci.
De rien.
Alors, je suis Yasmina Kétal, infirmière à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Ça fait maintenant un peu plus de 3 ans. Ça faisait quelques semaines qu'on était en grève dans le service, que ça commençait à se lancer chez nous. J'arrive pour prendre mon service, il manque une infirmière, le service est plein et moi je suis prévue en salle de déchocage, donc la salle de réanimation où il y a les patients, les 4 patients les plus graves du service, et la salle de déchocage était pleine. J'avais un patient qui était là pour un AVC. Une dame qui devait avoir 70-80 ans, qui était là pour une grosse détresse respiratoire. Un troisième patient qui était là pour une décompensation de diabète et qui avait la particularité d'avoir en plus une très grosse angine, donc il ne pouvait pas parler. Donc il s'exprimait soit en tapant sur la table, soit en faisant des gestes. Et la quatrième patiente était là pour ce qu'on appelle un choc septique. Elle avait une infection qui commençait à se généraliser et qui mettait en danger sa vie. Donc j'arrive, tous mes scopes sonnent, l'ambiance est un peu électrique, il y a beaucoup de choses à faire parce que je suis toute seule. Et 4 patients graves. Du coup, progressivement, je commence à faire mes soins. Et là, j'ai une de mes patientes, donc celle qui est là pour son choc septique, elle est jeune, elle a 30 ans, elle m'inquiète de plus en plus puisque sa tension commence à vraiment baisser progressivement. En même temps, je prépare des médicaments pour la patiente d'à côté, en même temps je la réinstalle parce qu'elle est âgée, qu'elle supporte pas le masque à haute concentration d'oxygène qu'elle a sur le nez et qu'elle passe son temps à l'enlever. Sauf que dès qu'elle l'enlève, eh ben en fait, son état respiratoire se dégrade. Plus le monsieur qui ne peut pas parler et qui me sollicite pour telle et telle chose, mais en même temps, difficile de pouvoir s'exprimer, difficile de pouvoir comprendre ce qu'il me dit. Le médecin qui était avec moi ce jour-là, je l'alerte et je lui dis bah, « Écoute, la patiente du SAS 3, donc la patiente qui est là pour le choc septique, sa tension, elle ne fait que de chuter. J'ai tout essayé, je l'ai remis dans une position adaptée, maintenir une tension un peu artificielle en rajoutant du sérum Phi. Et voilà, et ça marche pas et il y a un problème. » Donc elle réexamine la patiente. Pendant ce temps-là, moi, je continue à faire... mes soins, parce que j'en ai partout, en fait, et pareil, les scopes sonnent, et donc chaque action que je fais est forcément interrompue à un moment donné. Donc souvent, c'est les collègues des autres secteurs qui viennent dépanner quand il y a un souci. Sauf que, en fait, ce jour-là, vu qu'il y avait des patients qui étaient un peu graves aussi dans leur secteur, ils pouvaient pas venir m'aider. Donc vraiment, j'étais seule. Avec cette fameuse doc qui est restée avec moi à chaque minute parce que elle savait très bien que ces 4 patients étaient tous instables. Elle faisait ce qu'elle pouvait, mais on ne pouvait pas se diviser le travail. Donc, elle vient réévaluer la patiente et là, on décide que son état s'aggrave trop. Donc, elle appelle les réanimateurs, le service de réanimation. Je commence à préparer un médicament qui est un peu... dangereux puisqu'il joue sur la tension, donc ça fait partie des médicaments sur lesquels il faut avoir vachement de précision. Et le réanimateur arrive assez rapidement parce qu'il comprend qu'il y a un souci. Et là, il me redemande un certain nombre de gestes à faire et de médicaments à préparer. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, je n'ai que 2 mains, qu'il en a bien conscience. Hein, mais au même moment, il faut savoir que j'ai 3 autres patients. Que la patiente d'à côté qui a enlevé son masque à oxygène continue à enlever son masque à oxygène, que le monsieur d'à côté tape et qu'il me demande des choses, mais ça n'arrêtait pas en fait. Pour une infirmière des urgences, je me suis trouvée extrêmement lente parce que à la fois il fallait que je me concentre, à la fois j'étais parasitée et à la fois je me disais c'est pas possible en fait, si tu te laisses parasiter, tu vas faire une erreur. Et si tu fais une erreur sur ce genre de médicament, ça peut être fatal. Le réanimateur se retourne vers moi et me dit « Mais vous pouvez pas avoir de l'aide ?» Et je lui dis « Non, il n'y a que moi et il n'y a que nous. » Il faut savoir qu'en fait, pendant tout ce temps-là, la tension, elle continue de baisser. Et que la patiente, elle continue de s'enfoncer, en fait. Et que tant que moi, j'ai pas fait mon travail, ça ne pourra pas s'améliorer. Et un grand moment de détresse à ce moment-là qui me traverse en me disant « Mais en fait, je n'y arriverai pas. » Pour la première fois de ma vie, j'étais tétanisée, j'ai eu 10 secondes de véritable tétanie à l'idée de me dire qu'en fait je ne pouvais pas gérer Et je pourrais pas sauver la patiente, mais je pourrais pas mettre en œuvre rapidement les prescriptions médicales pour pouvoir sortir le patient de la détresse vitale. Heureusement, à ce moment-là, le médecin réanimateur a eu l'intelligence de comprendre rapidement la situation. Il a pris le brancard, il a pris la patiente et il m'a dit bah, « Écoute, nous, on va aller en réanimation avec la patiente, on a du personnel, on va pouvoir s'en occuper. » Il attend même pas les brancardiers. Hein. Et en fait, je me souviendrai toujours de la sortie de cette patiente parce que j'ai les seringues en main, il prend la patiente, il la fait sortir de la salle de déchocage, j'ai tous mes scopes qui sonnent et là, je m'assois et je pleure. Parce qu'en fait, je n'ai jamais vécu un moment d'empêchement à ce point-là. La sursollicitation, quand on est infirmier aux urgences, on sait ce que c'est en fait. 4 personnes qui nous parlent en même temps, c'est notre quotidien. Donc, c'est pas quelque chose qui nous effraie. Mais là, en fait, c'est aller trop loin. Et surtout, j'avais une femme de 30 ans en face de moi qui est en train de mourir. Et je savais, tout le monde dans la pièce savait ce qu'il fallait faire. Et en fait, on n'était juste pas assez pour le mettre en œuvre. Donc, je me prends cette minute où voilà, je fonds en larmes, mais en même temps, il faut continuer sa journée et je continue ma journée en mode pilotage automatique. J'ai l'impression de ne plus être moi-même, d'être totalement anesthésiée dans un univers un peu étrange. Et je retourne au travail le lendemain et impossible de me consoler. Je me retrouve dans cette salle de déchocage et en fait, à chaque personne qui passe dans mon sas et qui me demande si ça va, je chiale. Si bien que je n'arrive pas à regarder ce qu'est devenue la patiente. D'habitude, quand j'ai des cas un peu intéressants ou des cas un peu particuliers, je regarde son dossier, je regarde ce qui s'est passé dans la suite, ce qui s'est passé en réanimation. Et là, en fait, j'y arrive pas. J'ai pas envie de savoir, mais en même temps, ne pas savoir, c'est se dire qu'il a pu se passer le pire, qu'en fait, on n'a pas pu la récupérer, que machin. Bon, au final, c'est pas du tout passé comme ça. Elle est vivante. Elle est restée très longtemps en réanimation, mais elle en est sortie, et tant mieux. Et je me dis, en fait, c'est plus possible. Il faut dire les choses. Il faut être honnête vis-à-vis de nos patients, vis-à-vis de nous-mêmes. On ne peut pas y arriver. Et en fait, ce truc-là de prendre sur soi et de se dire que, voilà, on a géré, on a réussi à faire les choses. Et c'est souvent ça. C'est qu'au final, on a réussi à s'en sortir. D'avoir vécu la fois où on ne peut pas s'en sortir et que la patiente aurait pu ne pas s'en sortir, ça m'a déterminé sur le fait qu'en fait il fallait arrêter de combler ce qui n'est pas comblable en fait, enfin ce qui nous dépasse quoi. Pour moi, ça a été le déclencheur de quelque chose en fait. Je me suis dit c'est intolérable en fait. On peut pas être dans un service d'urgence et pas réussir à gérer en fait une urgence. Et à partir de ce moment-là, c'était une implication totale et c'est raconter à quel point c'est défaillant. Donc on a décidé de décorer le service. On a une collègue qui a recueilli des témoignages des uns et des autres. Et on s'est dit, bah, les gens, ils patientent, donc on va leur donner de la lecture. On a mis des choses, patients épuisés, soignants en danger. C'était pas parce qu'on est en grève que vous attendez, c'est parce qu'on vous attendez qu'on est en grève. Et c'est bien ça, en fait, le problème. Et c'est ça qui nous anime, en fait. C'est aussi la qualité de soins qu'on accorde aux gens et ce qu'on fait, en fait, de notre métier.
Monsieur, oui.
Bonjour.
Oui.
Je suis venu par le pompier là. Je suis tombé là, là, il semblait. Bah, lui, non, il m'a dit que.
Il ne sait pas, il sait pas que vous étiez là.
Non, lui, il est gentil avec moi.
Tant mieux.
Bon, ben, bah, qu'est-ce que là j'ai mal au cœur là.
Vous avez vu l'infirmière?
Je ne sais pas, je n'ai pas vu.
Vous patientez, elle va vous appeler, monsieur.
Ah, d'accord.
Il est très exactement 4h53 du matin. On est arrivé il y a à peu près une demi-heure. En fait, c'est des problèmes de détresse respiratoire de mon fils. Donc, comme c'est une récidive, pour le coup, il nous avait dit que si ça se reproduisait, il fallait absolument qu'on le ramène. Donc, du coup, on l'a ramené. Bah là, nous, on est venu à 4h du matin, mais ça dure depuis 22h. À tous les vomissements, cette sensation d'étouffement, il se lève en pleurs. Donc, bon, le papa travaille de nuit, donc du coup, j'ai dû l'appeler et... Comme je savais plus ou moins ce qu'avait mon fils, j'allais pas faire déranger une équipe de pompiers juste pour me ramener à l'hôpital, quoi. Donc du coup, mon mari qui est chauffeur, il dépose des gens à longueur de soirée, donc il peut bien déposer sa femme et son fils. Donc là, j'ai laissé un peu mon mari parce qu'il portait mon fils, donc pour le coup, c'est lui qui est entré. Parce que maintenant, il y a uniquement qu'un seul parent qui peut accompagner l'enfant à l'intérieur.
Et c'est votre premier enfant, votre seul enfant ?
Oui. Et je pense qu'il sera fils unique.
Ah oui.
C'est pas facile. Oh, mon Dieu, c'est pas facile. Moi, je viens d'une fratrie de 7 enfants. Je me demande comment ma mère, elle a fait. Franchement, c'est dur. Ma mère nous a élevés seuls. On vivait dans un 32 mètres carrés, donc à 8, à cette époque-là, quand il y avait ma mère. Bon, saturnisme, plomb, tout insalubre, quoi. Et ma mère, elle a fait tout de suite une demande de logement, mais qu'elle renouvelait tous les ans, dans lequel elle joignait les lettres du médecin par rapport au saturnisme, et ça marchait pas, quoi. J'ai perdu ma mère, j'avais 16 ans. Donc pas de tante, pas d'oncle, pas de cousin, pas de famille. Donc c'est ma sœur, ma grande sœur, qui est devenue responsable légale à 28 ans. Et bah, c'est simple, ma mère est décédée en août et l'office HLM nous a contactés en septembre. Donc ils nous ont donné un F4 tous ensemble. Ma sœur du coup paye les factures. Elle et mon grand frère du coup travaillaient. Bon, à ce moment-là, j'entrais au lycée et mes deux petits frères étaient en primaire. Ouais, en primaire, voilà.
Est-ce que vous le connaissez, cet hôpital? Vous le connaissez bien?
J'ai accouché ici. Ouais. C'est là où mon fils est né, le 28 juillet 2018. Quand j'ai accouché, au service donc, du coup maternité, il y avait à côté de la machine à café, il y avait une femme qui vivait. Donc elle se cachait derrière la machine à café et elle avait un nourrisson. Et puis voilà, chaque fois j'avais par habitude, je prenais un café, je lui proposais une boisson, voilà. Et ça fait mal au cœur. Et surtout qu'elle avait un nourrisson. Je me suis dit, mais dans quel monde on vit, quoi? D'avoir un nourrisson et de ne pas avoir un toit sous la tête, c'est dur. Je pense que à 5h15, je serai partie. J'espère, du moins.
C'était Une nuit aux urgences dans le cadre de notre série Place de la République, saison 3, épisode 4, reportage Émilie Chaudet. Une réalisation signée Clémence Grosse et l'attachée d'émission, c'est Aurélie Marseille. Merci à Mathias Vargon, à Linda Benous, à Armand Nima, à Walid Sacré, à Christine Tortevoix, à Yasmina Ketala, à Hélène Tain, à Mazigno, à Sorette, à Soukaina, à Fatou, à Nora, à Rachid. Et à tout le personnel des urgences de nuit de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. À lire une belle enquête publiée par le journal en ligne Les Jours sur l'hôpital de La Fontaine de Saint-Denis précisément. Elle est signée Camille Polony.